Balizac, direction Saint-Symphorien.
Alors ici, on est à Triscos, c'est un petit quartier de Balizac, donc on est dans le sud Gironde.
Balizac, direction Landiras, deuxième piste à gauche, sud Gironde.
Oui, alors c'est la partie au sud de Bordeaux, c'est la partie du plateau landais qui est en Gironde, donc c'est assez forestier.
Préchac, départemental 9, direction Château de Cazeneuve.
Alors ici, on commence à voir les premiers hêtres. Là, on les voit bien. Et ça va permettre de mieux comprendre la géologie de la vallée du Ciron.
Bombo, 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 c'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
La vallée du Ciron, qui traverse le sud Gironde, mais bien sûr qu'elle est splendide. Mais elle est encore menacée, encore une fois, après l'autoroute Langon-Pau, A65, qui a balafré le territoire et ravagé ses zones humides. Absurdité imposée qui peine toujours à trouver son utilité. C'est maintenant le projet de LGV, Bordeaux-Toulouse, qui ira aussi plus tard vers l'Espagne via Dax et Bayonne. C'est le GPSO comme grand projet ferroviaire du Sud-Ouest qui menace le territoire. Une ligne à grande vitesse pour gagner quelques précieuses minutes et rapprocher, dans un premier temps, Toulouse de la capitale. Mais la vallée du Ciron, sa végétation et son microclimat, réalisme magique, résistent. On retrouve tout d'abord, à Triscos, dans la commune de Balizac, Loïc Kersaudi, du collectif Nina, ni ici ni ailleurs, qui retape sa maison.
Antoine Chao,
c'est
bientôt demain.
C'est une vieille bâtisse de 200 ans, moi c'est vraiment... Niveau travaux, c'est la galère.
Ouais, ouais.
Mais
alors, tous ces travaux-là pour retaper cette maison, et là t'apprends, coup de tonnerre, qu'il y a effectivement la ligne LGV... qui ressort des limbes.
Ouais.
Bonjour.
La petite dernière qui est arrivée dans la maison, voilà. Donc effectivement, nous on apprend qu'il y a cet LGV qui se construit. Donc on tombe un peu des nues, on accuse le coup, on se dit ça va vraiment changer notre vie. Et nous, on n'est pas loin du tracé, on est à 600 ou 700 mètres à vol d'oiseau. Donc sachant que en fait, les forêts n'arrêtent pas le bruit. Ce qui est la seule chose qui arrête le bruit, c'est quelque chose de physique comme un mur. Donc on sait que nous, en plus, là, elle va être peut-être à 2 ou 3 mètres de hauteur. Ça va être sur un remblai, donc ça va projeter du bruit encore plus loin. Donc clairement, s'il y en a une trentaine ou une quarantaine de trains par jour, forcément, ça impacte, même à 600 mètres. Ça impacte lourdement.
Là, je vois que tu as un dossier, là, c'est ça, du GPSO. Donc,
exactement. Donc passer un peu donc le coup de massue quand en fait, Castex a annoncé qu'il mettait 4 milliards et quelques sur la table en avril dernier.
Donc pour relancer ce vieux projet. Pour
relancer ce projet qu'on pensait, justement, avec le Covid et tout, on s'est dit, c'est des choses qui vont, on n'en parlera plus.
Et avec les annonces de Macron, quand même, qui disaient que les lignes LGV, c'est terminé, les grands projets, etc.
En 2017, voilà, finalement, 4 ans plus tard, hop, ça revient. Donc... on digère un peu le fait que notre environnement va être vraiment extrêmement perturbé. J'ai commencé à regarder un peu ces dossiers parce que moi, à l'origine, donc je suis ingénieur agronome avec une spécialité environnementale et j'ai commencé à prendre ces études d'impact, à regarder d'un peu plus près ce dossier en me demandant un peu quel était vraiment l'intérêt. Et donc, en creusant un peu le truc, j'ai pas réussi à trouver un seul point aujourd'hui qui était défendable en face. Parce qu'on va d'abord nous parler de gains de temps. Mais le gain de temps, alors ceux qui sont pour vont annoncer qu'on gagne une heure entre Bordeaux et Toulouse. Ceux qui sont contre vont dire qu'on est plutôt à une vingtaine de minutes. Il se trouve que déjà dans tous les cas, les gares de Montauban et de Toulouse, elles vont plus être dans les centres-villes. On dit c'est 15 km à l'extérieur des villes.
Et
ils vont créer des nouvelles gares, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au centre-ville de Toulouse pour prendre un train, il faut prendre sa voiture, il faut aller à 15 km plus loin. Vous allez arriver sur un parking que vous allez payer, qui va sûrement appartenir à un grand groupe. Et derrière, vos 20 minutes ou votre demi-heure, vos 40 minutes que vous êtes censé gagner, finalement, vous les avez perdues déjà dès le départ à ce moment-là. Donc le gain de temps, déjà pour moi, je le vois pas. Après, on va parler d'un point de vue environnemental. On va détruire quasiment 5000 hectares sur le sol, entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Donc quasiment 3000 de forêt. On nous dit, c'est pas grave parce que on va replanter. On casse, mais on refait. Mais quel intérêt ? Je vois, chaque année, on se fait des COP21, des COP27, et chaque année, on voit que tous les voyants sont dans le rouge, et on continue à on casse, mais on refait. Mais non, à un moment, il faut arrêter de casser, il faut réfléchir autrement. Il y a des possibilités différentes qui existent, comme rénover déjà les voies actuelles. Et moi, c'est ce pourquoi je suis aujourd'hui en train de militer. En fait, l'environnement, c'est pas juste on casse un arbre, on en replante un autre, c'est pas ça. Il y a des continuités environnementales. Si dans un paysage, dans un environnement, on le coupe en deux avec une balafre écologique comme une ligne LGV, on casse cette continuité écologique. Et ça, c'est pas réparable, malgré quelques petits ponts qu'on va mettre par-ci par-là. C'est d'un point de vue environnemental, ça, c'est catastrophique.
Parce qu'ici, effectivement, on est proche du Ciron, qui est une rivière qui se jette dans la Garonne, là, à quelques kilomètres d'ici.
Exactement.
Et qui a un écosystème quand même assez particulier, quoi.
Oui. Moi, il se trouve que je travaille aujourd'hui, je suis responsable dans un vignoble, chef de culture dans un vignoble en agriculture biologique, c'est un cru classé de Sauterne. Et donc, à Sauterne, on a besoin de cette fameuse pourriture noble, cette pourriture qui va permettre d'avoir des vins liquoreux. La genèse de tous les liquoreux du Sud-Gironde vient de cette vallée du Ciron. Donc, en quelques mots, on a le Ciron, donc il y a une petite rivière qui fait entre 100 et 150 kilomètres, qui traverse les Landes, le sud Gironde. La particularité du Ciron, c'est qu'il est couvert d'une vieille hêtraie, donc des hêtres, une forêt de hêtres qui a été datée récemment au carbone 14 à 43 000 ans. Et cette hêtraie fait que l'eau reste fraîche toute l'année. Et en restant fraîche, quand elle se jette dans la Garonne, cette différence de température avec la Garonne, qui elle arrive depuis quasiment les Pyrénées, s'est bien réchauffée pendant plusieurs centaines de kilomètres, cette différence de température va créer les fameux brouillards matinaux et qui vont créer cet environnement humide et qui va nous faire donc du coup développer le Botrytis cinerea, qui est la pourriture noble de Sauterne. Et donc il nous faut absolument cette température fraîche du Ciron pour continuer à faire des liquoreux. Et là, dans les études, on peut voir notamment que le Ciron va être coupé en trois points. Il va y avoir la LGV qui passe dessus et sur une trentaine de points, c'est les affluents du Ciron qui vont être touchés. Il faut savoir que la LGV, c'est une soixantaine de mètres de débroussaillage à côté. C'est une emprise au sol de 20 mètres, et après c'est entre 30 et 35 mètres de chaque côté en plus, où il n'y a plus un arbre. On peut avoir de l'herbe, mais on n'a plus d'arbre. Donc ça va forcément changer un peu la température de l'eau.
Alors là, on s'approche du Ciron, justement. Oui. On arrive dans la hêtraie, là, on voit le Ciron en bas, effectivement.
Alors ici, on commence à voir les premiers hêtres. Là, on les voit bien. Regardez. On a une loutre qui a plongé devant nous. Ça, c'est une chance extraordinaire. Elle était juste en face, là, et elle a sauté de la berge. Ça, on a vraiment eu une chance extraordinaire, là. Donc, je suis Alexis Ducousseau. Je suis ingénieur de recherche à l'INRAE. Je suis généticien et je travaille principalement sur des aspects de conservation et de gestion de la diversité génétique naturelle en forêt. Je travaille principalement sur les chênes et le hêtre. Voilà, donc on arrive dans les hêtres, voilà, ici les quatre grands arbres que nous avons devant, ce sont des hêtres.
Ils sont majestueux, hein, ouais.
Et ils font plus de 30 mètres de haut, ce qui est déjà très haut pour la forêt locale. Ils sont gros, certains atteignent des âges importants pour le hêtre, jusqu'à un peu plus de 200 ans.
Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette hêtraie ?
Alors cette hêtraie, c'est un refuge glaciaire. Donc pendant la période de glaciation, il n'y avait pas d'arbres dans la région. On était dans des steppes, dans de la toundra, la limite de la toundra, ou d'autres formes herbacées. Et dans la vallée du Ciron, on avait une petite forêt faite de pins sylvestres, de bouleaux, et il y avait le hêtre. Avec les connaissances qu'on a actuellement sur le hêtre, on ne devrait pas avoir de hêtre ici parce qu'il manque un hiver assez froid pour que les faines puissent germer. On a des étés beaucoup trop chauds, trop secs pour le hêtre, et ils sont là. On est dans une ripisylve, c'est une forêt le long d'une rivière. Et ça, c'est unique aussi en Europe. Le hêtre est totalement intolérant aux excès d'humidité. Et on a des hêtres ici qui sont jusqu'en bord de l'eau. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très surprenant.
Alors ces hêtres, on peut dire que c'est des vestiges de cette forêt primaire ?
De cette forêt primaire et de la dernière glaciation. Ils étaient là, ils ont peut-être croisé un mammouth, ces arbres. Du moins, les ancêtres de ces arbres.
Alors, au-delà de l'aspect mémoriel, quelle est l'importance de cette hêtraie ?
Alors là, on est dans une situation hors norme. Et c'est intéressant de comprendre ces situations hors norme dans le cadre des changements climatiques, où on va vers un avenir que la planète n'a jamais connu. Et donc, comprendre comment ces arbres ont pu résister à des périodes trop froides, trop sèches, et puis maintenant, au contraire, des périodes beaucoup trop chaudes et puis aussi trop sèches, comment ils ont pu se maintenir ici ? Après ça, c'est quand même surprenant de voir ces hêtres survivre à des inondations régulières. Vous voyez, ce hêtre est juste sur la berge, à côté d'aulnes glutineux, qui sont les arbres que l'on trouve dans les berges. J'ai jamais vu de hêtre dans cette situation dans d'autres points d'Europe. Alors, la première fois où j'ai découvert dans les années 90 ce site, dès le lendemain, j'ai téléphoné au responsable du programme hêtre à l'INRA à l'époque. Ce n'était pas moi, c'était monsieur Éric Tessier-Ducrot. Et quand je lui ai décrit la hêtrée, il m'a demandé si j'avais abusé des boissons locales.
Il reste combien de spécimens ?
Alors, il reste 700 reproducteurs adultes. Alors, il faut savoir que génétiquement, on a besoin d'au moins 2000 reproducteurs efficaces pour maintenir la diversité génétique de la population. Donc on est dans une situation difficile, il va falloir réaugmenter le nombre de reproducteurs pour éviter une perte de la richesse génétique dû à un phénomène aléatoire qui s'appelle la dérive génétique.
Ça veut dire les préserver, quoi, c'est ça ?
Ah bah déjà, protéger, les préserver et surtout favoriser l'augmentation de cette population pour pouvoir la maintenir sur le long terme.
Et ça veut dire prendre soin de cette vallée, quoi, du Ciron.
Ah oui, oui, oui. Alors, d'autant plus que la vallée du Ciron, c'est un haut lieu de la biodiversité en Aquitaine. On a une richesse extraordinaire, aussi bien au niveau des écosystèmes. Par exemple, ici, on est dans une forêt que les scientifiques appellent un tilio-acérion. C'est un mélange de tilleul, d'érable, avec comme espèce compagne le hêtre. Et on va trouver ça dans des vallées encaissées de montagnes. Ici, on est en plaine. Donc là, c'est déjà une grosse surprise. Après ça, on a toutes ces tripisibles, ce corridor de feuillus tout le long, depuis quasiment la source jusqu'à l'embouchure. La majorité des tripisibles vont disparaître en France ou sont très très dégradés. Ici, on a tout un corridor de feuillus relativement bien conservé dans la vallée du Ciron. Donc ça, c'est déjà quelque chose de remarquable. On a des zones humides très intéressantes, notamment dans la partie amont du Ciron, à quelques kilomètres d'ici, au-delà de Bernos-Bolac. Donc là, encore une grande richesse. Après ça, dans cette vallée, on a encore quelques petites zones de landes qui étaient très communes au 19e siècle, avant les plantations de pins. On a des îlots de feuillus qui sont d'une très très grande richesse, notamment en insectes.
Antoine Chao,
c'est
bien
tôt.
Salut, ça va ?
Demain.
T'as trouvé ça problème ?
Ouais, super.
Sur France Inter.
Alors Denise, j'habite en Sud-Gironde. Je suis très engagée dans la découverte et la défense de l'environnement et actuellement très mobilisée contre le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Bordeaux-Espagne.
Alors actuellement, mais depuis longtemps aussi, parce que c'est une vieille histoire, hein, cette LGV, ou ce tracé de LGV qui va détruire une partie ici du Sud-Gironde.
Oui, oui, c'est une vieille histoire, puisque le projet a émergé en 2005, où il y a eu un débat public qui nous a présenté un projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Donc il y a eu tout de suite ici une mobilisation, une opposition, parce que c'était évidemment un projet de destruction et de déménagement du territoire ici. Ça allait traverser un Sud-Gironde préservé avec de l'espace sans que ça lui apporte rien, enfin des désagréments, mais pas davantage.
Ouais, donc tu parles de déménagement, toi, c'est ça, hein ?
Oui, ouais. Déménagement du territoire. C'est-à-dire ouais. Que, soi-disant, ça va créer de l'activité, etc. En fait, ça déplace les activités. Ça participe de ce grossissement de plus en plus ingérable des grandes métropoles. Qui n'est pas un aménagement équilibré des territoires. Et l'année suivante, il y a eu un débat public sur un projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Espagne. Voilà. Et à chaque fois, il y avait plusieurs hypothèses de tracé. Et comme par hasard, à la suite des deux débats publics, le tracé qui a été choisi, c'est celui en Sud-Gironde, au milieu de nulle part, chez les Plouques. Il n'y a rien, soi-disant, et donc on peut détruire, il y a de la place, sous prétexte de faire un tronçon commun qui, soi-disant, ferait des économies, mais en fait qui fait faire un détour aux deux tracés de LGV. Et qui a placé la bifurcation entre ces deux lignes sur un hotspot de biodiversité du Sud-Gironde, le bassin versant du Ciron, et dans la partie la plus fragile, la plus magnifique, la plus préservée. Voilà.
Alors mettre en péril tout cet écosystème hein, particulier, pourquoi gagner quelques minutes sur un tronçon Bordeaux-Toulouse, en tout cas dans un premier temps hein. C'est ça qui est dans la balance, quoi.
Alors l'objectif annoncé, c'est effectivement la vitesse, aller plus vite. Mais pas aller plus vite partout, aller plus vite d'une grande métropole à une autre. C'est relier les grandes métropoles à très grande vitesse. En traversant les territoires, on parle, nous, d'avions sur rail. C'est-à-dire que voilà, c'est un tube qui relie Paris, Bordeaux, maintenant Paris, Toulouse, et qui ne correspond pas du tout à une politique ferroviaire de desserte des territoires au service de tous. La question, c'est qui a intérêt, voilà. Alors, on peut dire qu'il y a une conjonction d'intérêts. Bah, le premier, c'est le BTP. Quand le bâtiment va, tout va. Le BTP est très discret, mais très puissant. Il fait un lobbying intense et il lui faut des grands travaux. Concernant les grands projets ferroviaires, ils ont fait la Tour Bordeaux, ils ont acheté des grosses machines, ils se sont entendus entre eux.
La LGV Tour Bordeaux. Hein,
la LGV, la ligne à grande vitesse Tour Bordeaux, voilà. Et ils attendent la suite. Bon, après, qui est-ce qu'on trouve? Mais visiblement, certains grands élus. Ce modèle LGV a fait rêver et tout le monde, le summum de sa carrière politique, c'est d'avoir sa LGV à soi, dans sa ville ou dans son territoire. Et on a un exemple extraordinaire avec Alain Rousset, qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine et qui, une fois de plus, fait une pression extraordinaire pour trouver le financement, enfin, ou les promesses de financement.
Et là, il a trouvé un allié avec Jean Castex, hein?
Oui, alors mais Jean Castex, voilà quelqu'un d'autre qui, tout d'un coup, a promis, pour faire plaisir en Midi-Occitanie, au moment des élections, 4 milliards sur la Bordeaux-Toulouse.
Ramener le TGV dans sa région, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais. En espérant, par ailleurs, avoir des voix. Et il se rêve maintenant un destin régional. Voilà, il y a la question des égaux. Le pouvoir a tendance à donner envie du pouvoir, quoi.
Et là, oui, ils sont importants, les contre-pouvoirs, et ils existent. L'association Léa, comme Landes Girondine, environnement alternative. La CEPENSO, comme Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, le collectif NINA, comme ni ici ni ailleurs, ou les Amis du Bartos et d'autres que vous retrouverez sur la page C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast.